LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Alors, on va partir pour Saqqara et on va visiter la grande nécropole qui est à côté de la capitale égyptienne Memphis, où se trouvent les premières pyramides et les belles tombeaux où tout a commencé. L'égyptologie a commencé là-bas il y a plus d'un siècle et demi.
Toutankhamon, le retour du pharaon. Élise Gruot, Diffy Mariani.
Ça y est, on est près de la montagne ouest maintenant. Donc les pyramides sont là-bas.
Épisode 3. À la vie et à la mort, un culte de l'au-delà.
L'Égypte est une ébullition. Hein. Ça construit de partout. Des caires. On dirait qu'on est au temps des pyramides. Hein. Parce qu'on sait, c'était l'Égypte ancienne était aussi un pays en construction permanente. Dès qu'un roi est mort, un autre il commençait à faire sa pyramide, tout ça. Des temples, des trucs, c'était tout le temps. Rien n'a changé, quoi.
Vassil Dobref, archéologue et égyptologue.
Là, on voit par exemple, ils ont fait au bord de la route toutes ces petites choses à manger. Ben, les offrandes, les kiosques, voilà, les kiosques, exactement ça. Ici, pareil. Ce qu'on voit aujourd'hui, on peut parfaitement l'imaginer. C'est une entreprise, quoi.
Avec Toutankhamon, c'était la première fois qu'une sépulture de pharaon était retrouvée intacte, inviolée, contenant l'ensemble de son mobilier funéraire et livrant une photographie exacte des funérailles d'un pharaon. Au-delà du choc de l'abondance et du raffinement des objets retrouvés, il faut imaginer l'abondance des informations. Partout, des inscriptions de textes. Partout, des représentations iconographiques, sculptées ou peintes, du plus petit au plus grand des objets, sur toutes les parois, tous les murs. Et partout exprimer ce même message, ce vœu, cette prière, cette conviction, assurer le passage du pharaon dans l'éternité.
Il y a quelque chose effectivement avec la lumière en Égypte, par le soleil, par le fait qu'on n'est finalement pas très loin du tropique, et donc c'est un climat très, très lumineux et très sec.
Frédéric Mougenot, conservateur.
La pierre du désert, qui est très lumineuse également, la pierre des temples, la pierre des monuments et l'aspect très minéral même des bâtiments modernes du Caire. Et comme c'est un pays très plat, en tout cas la région du Caire, et même quand on va à Louxor et qu'il y a cette chaîne montagneuse, elle n'est pas extrêmement élevée, le soleil se couche finalement très tard. Donc la lumière du soleil descendant, du soleil couchant ou du soleil levant, dure longtemps. Et cette lumière est extrêmement importante, elle a un rôle très important dans la mythologie égyptienne. Cette lumière qui tombe sur des paysages aussi très spécifiques. Cette vallée fertile, donc cette bande verte, très verte, de palmeraies, de champs, alors que pas très loin derrière, on voit vraiment une colline de pierres et de pierres beiges. De l'eau, une bande verte, extrêmement verte, et derrière, le désert, l'aridité la plus absolue. Un ciel bleu, un grand aplat bleu lumineux. Des maisons en terre crue, des ruines avec ces pierres égyptiennes qui captent bien la lumière par leur forme, par les reliefs qui sont gravés dessus, qui sont là aussi pour capter la lumière.
Nous partons avec Vassil Dobref, archéologue français d'origine bulgare qui vit en Égypte depuis 30 ans, à la découverte des pyramides à proximité du Caire. Car même si Toutankhamon n'a pas été retrouvé sous l'un de ces gigantesques tombeaux de pharaons créés plus de 1000 ans avant lui, mais dans une tombe de la vallée des rois, c'est bien au pied des pyramides, qu'elles soient lisses ou à degrés, que l'on peut commencer à s'imprégner de la géographie, des formes et des symboles, pour entrer à petits pas dans la conception de l'au-delà qu'avaient les anciens Égyptiens et dans tout ce qu'ils ont entrepris pour la voir se réaliser.
Donc là, nous sommes du côté de la montagne de Mu'attam, ce que ça s'appelle. Donc le Nil, vous savez, voilà, ça c'est dans toute sa largeur, presque plus qu'un kilomètre, je crois. Non, là, encore un petit îlot. Hein.
Très large,
la lignée. Parce que tout à l'heure, on ne voyait pas parce qu'il y avait l'île du Manial. Là, il y a une autre île qu'on appelle l'île de l'or, d'Ahab. Ouais. L'or, comme l'or. Et elle est pas entièrement construite, si je puis dire. On a encore des terrains. Quand on va monter sur le pont, vous allez peut-être voir.
Les Égyptiens sont passés maîtres dans l'art du relief, aussi parce qu'ils vivent dans un pays extrêmement lumineux, où les formes ressortent seulement par le passage du soleil, qui fait ressortir donc les contours des formes qu'ils ont gravées. Si les dieux suprêmes de l'Égypte sont Ré, Amon-Ré, Atum, c'est parce que le dieu soleil est vraiment omniprésent en Égypte. Il est vraiment là 365 jours par an. Le rapport des Égyptiens à la lumière, il est essentiel depuis l'époque pharaonique.
Après avoir méandré pendant plusieurs fois, maintenant on va prendre ce grand virage, presque 90 degrés. On tourne. Et après avoir un deuxième là-bas, on a fait une deuxième grande courbe. Pour comprendre l'Égypte ancienne, il faut d'abord imaginer comment c'était la géographie. Il faut faire abstraction qu'il y a 110 millions aujourd'hui de personnes. Il faut penser qu'ils avaient peut-être à l'époque même pas 1 million de personnes. Il faut imaginer les choses différemment. Donc, c'est la partie la plus... Regardez, vous avez juste un petit bout d'une île là, parce qu'il y a cette île du Dahab. Vous voyez, c'est encore assez vert. Hein. Donc, tout était complètement différent. On est quand même, il y a 4000... Il y a presque 5 millions. Ce qui est important pour comprendre par la suite par rapport aux pyramides, c'est que le Nil aujourd'hui est près de la montagne est. Alors que dans l'Antiquité, les sources grecques, les sources nous disent très clairement que le Nil était du côté de la montagne ouest, ce qu'ils appelaient la montagne libyque. Donc le Nil n'était pas là. Le Nil était à 8 km plus vers l'ouest. Et justement, on va essayer de voir sur la route où il pouvait être. La crue du Nil peut très bien modifier une grande crue du poussé. Il y a des crues de Nil de 3-4 mètres, peut-être plus. C'est énorme. Donc ça peut très bien modifier la cour d'une rivière. Et de ce point de vue, il est essentiel de comprendre qu'à partir du moment où le Nil est beaucoup plus près des pyramides, la construction, l'apport des pierres, tout ça était différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde les pyramides, quand on regarde leur environnement, il n'est pas du tout à l'image de ce que le pharaon, eux, voyait. C'est très, très différent. Et c'est à nous d'imaginer comment c'était.
Depuis l'Antiquité, les Égyptiens vivent dans un pays qui a évidemment connu beaucoup d'évolutions écologiques, climatiques, mais qui, globalement, a gardé les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une vallée, une bande, un fleuve, qui est la colonne vertébrale du pays et de la civilisation. Donc ça conditionne beaucoup leur conception, leur regard sur l'univers, cette bande fertile au milieu du désert. Et en même temps, c'est une vallée très plate, notamment autour du Caire, où ont été bâties les grandes pyramides de l'Ancien Empire. La plus haute, celle de Khéops, culmine à 147 mètres de haut. Ce sont donc des montagnes artificielles qui sont immanquables dans le paysage depuis l'Antiquité. Et jusqu'à l'extension urbaine du Caire, dans le courant du XXe siècle, dans toute la région, on pouvait voir de loin les pyramides, puisque c'est une région extrêmement plate.
Donc ça, c'est une avenue, une corniche, qu'on appelle la corniche qui va sur un quartier très chic du Caire, qui est Mahadi. Et à un moment donné, on va monter, on va traverser donc le Nil. Et quand Hérodote, vous savez, le père de l'histoire, comme on dit, quand il est venu en Égypte en 450 avant notre ère, il s'est rendu compte que d'abord, il a vu le Nil, bien sûr, les pyramides, etc. Il était choqué par rapport au Nil, parce que le Nil coulait à l'inverse. Le fleuve en Grèce coule du nord vers le sud, vers la mer. Alors qu'ici c'est l'inverse, c'est du sud vers le nord. Ah bon, on ne connaissait pas la Terre, la géographie de la Terre comme on la connaît aujourd'hui. D'autre part, il s'est rendu compte qu'il y avait un vent permanent depuis la mer, donc du nord, le vent du nord, le beau vent. La crue du Nil vient du sud vers le nord. Le vent repousse l'eau du nord vers le sud. C'est un phénomène incroyable. L'eau est repoussée naturellement. C'est pas une crue dévastatrice. C'est pour ça qu'on voit l'une des premières images du fond, c'est en train de creuser des canaux. Si vous creusez des canaux à partir du Nil, à gauche, à droite, vous créez un système d'irrigation, de détournement de l'eau pour irriguer la terre noire, la terre fertile. Ce que l'Égyptien appelait Kemet. Kemet, c'est aussi l'Égypte. Le mot Egyptos, en grec, c'est un mot tout à fait moderne, si je puis dire, de l'époque grecque. Les pharaons, ils appelaient l'Égypte Kemet, la terre noire, la vallée. Et de l'autre côté, où c'était plutôt désertique, il appelait Déchiret, la rouge, d'où vient le mot désert. Donc on utilise des mots pharaoniques sans le savoir.
Le Nil est le second fleuve du monde. Il se déroule sur 6500 km et représente 5 fois la longueur du Rhin. Après être arrivé en Nubie, il coule encore pendant 3000 km jusqu'à la Méditerranée, uniquement à travers des déserts. Le Nil est beau. Il est le père nourricier de l'Égypte. L'homme moderne a découvert ses sources il y a seulement 2 siècles. Et nos pères n'ont presque rien su du peuple vieux de 7000 ans qui vivait sur ces étroites bandes de terre fertile.
Ce qui est très important, à partir d'ici, c'est tout droit. Et on est parfaitement nord-sud, est-ouest. C'est-à-dire, la montagne qui est ici est parfaitement orientée. En Égypte ancienne, c'est ça les deux axes les plus importants. Est-ouest, l'axe solaire. Nord-sud-sud-nord, c'est l'axe du Nil. Donc c'est peut-être pour ça ce que je constate aujourd'hui, qu'au bord du Nil, nous avons une montagne qui est parfaitement orientée, ce plateau de Saqqara. Ben ça, ils l'ont vu aussi à l'époque. Donc, c'est là qu'ils ont établi la première capitale. Et c'est parce qu'à partir d'ici, s'ouvre le delta du Nil, qui aboutira là-bas, au bout, sur la Méditerranée, à 250 km d'ici. Et à partir de ce moment-là, on comprend mieux pourquoi c'est là qu'on a fait les premières pyramides, les premiers tombeaux des rois, la capitale qui est là. Et ici, imaginez que maintenant, le Nil est juste derrière nous. Et imaginez tout ça, à droite et à gauche, dans l'eau. Maintenant, nous sommes sur la route de Saqqara. Comme vous constatez, elle est un peu plus haut que le reste. Et bien ça, c'est quelque chose de parfaitement historique, on le connaît, géologique, si je peux dire. Parce que les Égyptiens disent que le Nil coulait au bord de la montagne libyque. Ils disent qu'ici, il y avait une digue, déjà qui est là depuis les temps géologiques, et que c'est les pharaons ont augmenté, ils ont élevé cette digue. On peut comprendre facilement, quand il y a la crue du Nil, cette digue protégera. Et moi, je me rappelle, j'avais vu des aquarelles où on voit ici, il y a une charrette avec un âne qui nage dans l'eau. On a l'impression, comme ici, cette charrette-là, mais on a l'impression qu'elle nage dans l'eau. En fait, elle est sur cette petite bande, cette digue qu'on est actuellement, sur laquelle on avait fait l'asphalte. Donc on rentre à Saqqara par la voie ancienne.
Je vais me mettre comme ça pour pas gêner tout le monde.
Vassil Dobreff, vous êtes un archéologue, vous fouillez à Saqqara, vous êtes un spécialiste des pyramides et vous cherchez une pyramide ensevelie dont vous avez retrouvé des éléments. Là, on vient d'arriver sur le site de Saqqara. Comment pourriez-vous nous décrire le décor, s'il vous plaît ?
Saqqara, c'est vraiment la grande nécropole royale d'Égypte, parce que la face de la capitale, Memphis, et dès le départ, c'est là que ça commence. C'est ici qu'on a commencé à enterrer le premier pharaon d'Égypte. C'est ici qu'il y a la première pyramide
à degrés. Bien sûr, il n'y a pas que des pharaons à Saqqara, c'est toute une nécropole, avec des particuliers, avec des prêtres, avec des militaires, avec tous les gens, toute la nomenclatura, tous les gens, les hommes et les femmes du pharaon qui sont autour. Et c'est pour ça que c'est une nécropole qui est étudiée pendant 3000 ans pratiquement. Et on trouve toutes les époques depuis le début, l'époque pharaonique jusqu'à la fin, jusqu'à l'époque gréco-romaine. Donc on voit des tombes, des temples, des structures de toutes les époques à Saqqara. Et c'est pour ça que c'est tellement complet. Parce qu'on a toute l'histoire égyptienne en résumé à Saqqara, sur le plateau. La nécropole de Saqqara a été toujours utilisée. On a des tombes de l'époque des Ramsès, de toutes les époques. Même le fameux Horemheb, le général Horemheb, qui est un des personnages très importants du temps d'Akhnaton et Toutankhamon, ce général-là, sa tombe, elle est là. Des grands personnages de la 18e dynastie, leurs tombes sont là, à Saqqara. Et Toutankhamon, on a sa nourrice, on a choisi pour elle de creuser une tombe dans la montagne. Et dans cette tombe, on voit cette nourrice avec le roi Toutankhamon, assis sur ses genoux comme un enfant qui reçoit du lait. Représenter le pharaon comme un enfant, c'est on recherche la résurrection. Et donc, on les voit, les deux cartouches, Toutankhamon et Nebkhepirouré.
Les pyramides sont des tombeaux royaux à l'origine. Les grandes pyramides que l'on connaît sont les tombeaux des pharaons de l'ancien empire, les plus connus étant Khéops, Khéphren et Mykérinos. La pyramide naît d'une la forme de la tombe classique égyptienne partagée par les pharaons puis par l'élite qui est le mastaba, donc une forme de trapèze, donc plat. Et le chef des travaux du pharaon Djoser imagine d'empiler des formes de mastaba pour créer une forme d'escalier. Et certainement cet escalier devait servir au pharaon à grimper jusqu'au ciel et rejoindre les dieux qui circulent et résident dans le ciel, et les étoiles, notamment donc les étoiles impérissables, qui brillent toute la nuit et toute l'année.
C'est le premier monument en pierre qui a été construit en Égypte, massivement comme ça. On est vers 2700 avant notre ère. Le bâtiment fait la base à peu près 120 mètres de côté et elle fait 60 mètres de haut. Mais imaginez, à l'époque, on construisait plutôt en briques crues. Ça vient du limon du Nil et on faisait sécher ça à la lumière du soleil, à la chaleur du soleil. Et puis, c'était un matériau vivant parce que la terre fait apporter la vie. Alors que tout d'un coup, on commence à utiliser massivement la pierre taillée. Et pas seulement pour la pyramide, mais il y a tout un complexe, c'est 15 hectares, hein. Tout ça en pierre. Donc c'est évident que ce départ, cette nouvelle dynastie par rapport aux Égyptiens, un nouveau roi, Netcherichet, divin de corps. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Et surtout, une idée principale qui surgit, c'est que le tombeau du pharaon, sous la pyramide, n'est pas qu'un tombeau. On enterre le pharaon, mais après il va ressusciter. Et justement, grâce à ce monument à degrés, c'est un gigantesque escalier qui va lui permettre de monter dans le ciel. Une fois là-haut, il va devenir un être solaire, rejoindre son père Ra, le dieu solaire. Et depuis là-haut, il va pouvoir redescendre sur l'autre côté de cet escalier gigantesque pour revenir en tant que dieu dans son temple pour visiter son domaine. Et donc, à partir de là, a commencé cette énorme, si je peux dire, évolution dans la construction, parce qu'on veut faire mieux. De 60 mètres, on passe à 105 mètres, le père de Khéops. Donc au bout de 3 générations, donc moins d'un siècle, on passe d'une pyramide de 350 000 mètres cubes de pierre à des pyramides qui font 3,5 millions de mètres cubes de pierre. On sait comment ça a évolué, ça a explosé. C'est là qu'il y a un mystère des pyramides. Comment si vite ils sont passés de... Ils ont multiplié... C'est incroyable le chiffre de pierres qu'ils ont pu utiliser pour construire ces pyramides.
Et puis, à partir du règne du pharaon Snéfrou, les pentes de la pyramide sont lissées pour créer la forme de la pyramide géométrique telle qu'on on utilise ce terme aujourd'hui. Et c'est également toujours donc une espèce de rampe vers le ciel. Et en même temps, on peut supposer que cette forme de triangle évoque les rayons solaires pétrifiés, en quelque sorte, qui descendent du ciel donc sur Terre.
C'est un monument qui représente le soleil. C'est entièrement solaire. C'est pour ça que c'est cette forme-là qui est restée. Parce que ce sont les rayons solaires. Vous savez, les rayons solaires descendent du haut vers le bas. C'est ça la pyramide. Et quand on a la chance d'avoir des nuages, on voit cette fameuse pyramide solaire dans les nuages. Le soleil qui perce à travers les nuages. Et là, tout de suite, on comprend tout de suite qu'est-ce que c'est une pyramide. Si on le voit aujourd'hui, l'Égyptien de l'époque le voyait aussi. Donc imaginez cette image, cette vision de soleil qui perce les nuages. Quand on va représenter les rayons solaires, c'est comme ça qu'on va construire. Et c'est pour ça que c'est resté pendant un millénaire. Comme l'image, même plus tard, c'est cette montagne-là qui a cette forme-là. C'est toujours cette idée-là. Les rayons solaires pétrifiés, donc divins.
Ce qui est important dans la conception de l'au-delà pour les Égyptiens anciens, c'est de vivre aux côtés des dieux.
Florence Albert, spécialiste de la littérature funéraire de l'Égypte antique.
Vivre avec les dieux, c'est vivre éternellement, c'est suivre le cycle du soleil, donc c'est un cycle infini. Ils voyaient le soleil qui tourne dans le ciel et qui revient chaque matin au lever. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'il n'est pas là? Donc il y a effectivement toute une littérature et une iconographie sur ce qui se passe pendant la nuit, quand on ne voit pas. Ils sont presque obsédés par ce qui se passe pendant la nuit, parce que est-ce que le soleil va revenir chaque matin? On a ce qu'on appelle le livre de l'âme d'Ouat. C'est une succession de représentations qui vont décrire le parcours du soleil pendant les heures de la nuit, quand il est sous la terre. Donc c'est une progression horaire sur les 12 heures de la nuit. Donc Amdouat, ça veut dire ce qui est à l'intérieur de la Douat. La Douat, c'est cet espace souterrain dans lequel le soleil passe finalement chaque nuit, et à l'intérieur duquel justement il y a tous les corps, tous les momies en fait qui sont là. C'est le Ré, le soleil, qui est dans sa barque et qui va voyager dans cet espace pendant les 12 heures de la nuit. Et il y a une progression qui se veut en fait de plus en plus en profondeur. Au milieu de la nuit, on est vraiment au plus profond de la douate, donc de cet espace souterrain. Et là, il y a tout un tas d'épreuves pour le soleil. Essentiellement, c'est combattre toutes sortes de démons, d'ennemis, à l'aide des divinités qui l'accompagnent dans la barque, notamment. Il y a des histoires de grands serpents, le serpent Apophis, qu'il faut combattre et renaître au matin, parce qu'il a réussi à déjouer toutes ses épreuves et il ressort par le vagin, en quelque sorte, de la déesse Nout, donc la déesse du ciel. C'est une naissance du soleil.
Une belle et paisible mise au tombeau aura lieu lorsque tes 70 jours d'embaumement seront passés et que l'on te déposera sur la civière. Tu seras emmené par des taureaux immaculés. Ta route sera aspergée de lait jusqu'à ce que tu aies atteint ton tombeau. Les cœurs aimants de tes enfants te pleureront. Le prêtre ouvrira ta bouche et il achèvera ta purification. Horus décèlera tes lèvres et ouvrira tes yeux et tes oreilles. Ton corps sera plus proche de la perfection en tout ce qui t'appartient. On lira des préceptes et des panégyriques. On t'offrira un sacrifice funèbre. Ton cœur sera en toi comme il le fut lorsque tu étais sur terre. Tu pénétreras dans ton corps comme au jour de ta naissance. Tes courtisans s'inclineront devant toi. Tu avanceras dans la terre que le Dieu t'a donnée, dans la tombe de l'Ouest. Des cérémonies auront lieu. Les danseurs funèbres viendront vers toi dans la jubilation.
Les fouilles archéologiques en Égypte ont permis de livrer parmi les plus anciens documents écrits de l'histoire humaine, le livre des morts et le livre de l'âme d'Ouat. Ils sont à la fois les plus anciens et d'une sophistication inouïe. Entièrement peints de hiéroglyphes et de scènes sur d'immenses rouleaux de papyrus ou inscrits sur les parois des tombeaux, des sarcophages et des cercueils. Ces connaissances magiques devait permettre aux défunts de triompher des dangers de l'au-delà.
On a pour les funérailles égyptiennes non seulement le mobilier qui nous aide, on a aussi quelques papyrus qui nous donnent des indications sur comment doivent se passer les funérailles. Et puis on a des représentations dans les tombes des nobles, avec par exemple la manière d'amener le mobilier funéraire.
Marc Gabold, archéologue et égyptologue.
En gros, ce que l'on sait, c'est que dans un premier temps, la dépouille du roi est momifiée. Donc là, on peut se fonder sur Hérodote, Diodore de Sicile, pour les procédés de momification.
Ce sont eux les sources principales
pour comprendre la momification. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on retrouve sur les cadavres embaumés, et notamment sur celui de Toutankhamon, les marques de ces rites qui ont été pratiqués, l'éviscération. Par exemple, on a les traces de l'excérébration, c'est-à-dire le fait d'ôter le cerveau de Toutankhamon. La seule particularité, c'est que là, conformément à ce que dit Diodore de Sicile, on a effectivement mis un crochet dans le nez, percé l'ethmoïde pour pouvoir enlever le cerveau. Mais on s'est aperçu aussi que chez Toutankhamon, on est passé par le trou occipital pour extraire l'autre partie du cerveau. À chaque fois, on a rempli la cavité du roi avec une résine qui s'est solidifiée. Et donc, on a deux petits lacs qui sont à parfaitement angle droit qui montrent que la momification, en tout cas, s'est faite en deux temps pour Toutankhamon.
Oindre sa tête avec de l'huile d'oliban. Puis lorsque cela a été fait, pratiquer une seconde onction avec de l'huile, rattacher la tête et mettre dessous un enduit collant à base de poudre de myrrhe et de résine liquide de genévrier.
Le but, c'est d'empêcher la putréfaction. Et la putréfaction, elle démarre dans les organes mous. À partir de l'instant du décès, toutes les petites bactéries que vous avez dans l'intestin, elles vont commencer à digérer l'intestin lui-même. C'est ce qui produit la putréfaction et la décomposition. Et tous les organes mous sont susceptibles de subir une telle putréfaction. Et donc les Égyptiens souhaitent arrêter ce processus. Donc le premier moyen, c'est d'abord d'enlever tous ces viscères qui sont susceptibles de provoquer la putréfaction, d'où on enlève le cerveau, on enlève le contenu de la cavité thoracique et abdominale. On remet le cœur quand on peut, parce que quand
le cœur, il est remis parce que c'est un muscle.
Il est considéré comme le siège de la conscience et d'une partie des sentiments, de la volonté et d'une partie de l'intelligence. Beaucoup plus que le cerveau, qui n'est pas considéré comme l'organe de l'intellect. On le momifiait à part, on le remettait à l'intérieur. Il se trouve que pour Toutankhamon, on ne l'a pas retrouvé. Alors c'est un mystère, il y a des explications qui ont été trouvées que je ne trouve pas très très convaincantes. Et ensuite, une fois qu'on avait enlevé donc ces organes intérieurs qui provoquaient le démarrage de la putréfaction, le seul moyen après de conserver le corps, c'est d'enlever le maximum d'eau. Et là, les procédés, on les connaît, c'est soit la dessiccation naturelle, au soleil, soit le sel, ou différentes sortes de sel, et c'est ce qui a été utilisé par les Égyptiens, et qui absorbe l'humidité dans des tampons. Et ensuite, une fois que le corps est complètement desséché, on va essayer de lui redonner un peu de souplesse en mettant des huiles et des onguents, et on va remettre les organes desséchés à l'intérieur. Et à partir de là, le processus de putréfaction est plus ou moins arrêté. Donc c'est un processus qui a été mis au point par les Égyptiens, je dirais, dès l'Ancien Empire. Ce qui s'est passé avec Toutankhamon, c'est que visiblement, ils ont voulu trop bien faire. Donc à toutes les étapes, ils ont mis trop de produits, etc. Et finalement, ça a porté dommage à l'intégrité de la momie elle-même. En fait, le corps semblait presque carbonisé, les chairs étaient complètement desséchées, craquelées. Donc la momie était en mauvais état quand on la compare à d'autres momies royales de cette époque. Ce qui a posé aussi des problèmes, puisque par exemple, la momie était collée à l'intérieur du cercueil d'or. Donc à fouiller, ça n'a pas été très pratique. On n'a jamais pu enlever la momie et la démailloter. On n'a jamais pu l'enlever parce qu'elle était collée avec les onguents au fond du cercueil d'or. On n'a jamais pu la démailloter parce que tous les tissus d'emmaillotement étaient entièrement pulvérulents. Donc on l'a en fait fouillé comme on fait une fouille archéologique, en grattant à la truelle et en comptant différentes strates que l'on rencontrait.
Et on a compté 16 couches
dans maillotage. En gros, il y avait 16 couches dans maillotage principal avec des bijoux.
C'est assez stupéfiant, cette accumulation de couches.
Oui, c'est l'idée même de la protection. Il faut savoir que le mot Dieu, par exemple, en égyptien, c'est un symbole qui est dans des bandelettes. Donc, en fait, le fait de mettre quelque chose dans des bandelettes, ça favorise sa divinisation, en quelque sorte. Et le but de la momification, c'est de fabriquer un Osiris, donc de fabriquer un dieu. Donc, c'est un petit peu pour cela qu'on utilise les emmaillotages de bandelettes, que l'on utilise effectivement beaucoup ces bandelettes, qui plus tard seront d'ailleurs inscrites à partir de la fin du Nouvel Empire, on aura des bandelettes inscrites avec des formules. Mmh. Puisque, bien entendu, toute la phase de momification s'accompagne de récitations pour favoriser la renaissance du défunt.
Paroles à prononcer après avoir accompli cela sous sa tête. Ô Osiris, reçois ta tête dans l'Occident, de sorte que tu entres parmi les glorifiés, nobles et excellents. Ta tombe à l'Occident a été parachevée et ton équipement funéraire est déployé dans la nécropole. Ton nom est sanctifié par les embaumeurs et tu as un nom chez les glorifiés et les nobles. Les habitants de la Douate se prosternent devant ta dépouille. Les habitants du ciel reçoivent ton bas. Les habitants de la terre te rendent grâce. Les habitants de la vallée purifient ta dépouille.
Il y a deux idées qui se complètent complètement. Pourquoi on momifie le corps ? Le corps, en fait, au moment où on le momifie, où on l'embaume, on va le charger de matières minérales, de tout un tas de choses qui vont être extrêmement utiles ensuite pour maintenir, rester vivant éternellement. On place le corps dans la tombe, donc dans la douate, dans la terre. Le corps momifié dans la terre. Il reste là, il ne bouge pas, mais ce corps-là, il faut qu'il ne pourrisse pas, il faut qu'il reste dans un bon état. Pourrir, c'est disparaître, oui, se faire dévorer par les animaux, les serpents, les insectes, enfin voilà, il faut se prémunir de ça. Il faut vraiment conserver son enveloppe corporelle intacte. Et ça, donc, la momification, l'embaumement, y contribue. En même temps, on va charger le corps de toutes ces matières, donc c'est des matières minérales hein, pour l'essentiel, qui vont avoir aussi une fonction un petit peu particulière. Des huiles, des minéraux qu'on va mettre dans le corps au moment du rituel. Dès qu'on va avoir à placer une matière minérale spécifique, on doit prononcer un texte en même temps pour activer cette matière. Les gestes, tout est codifié. Ce rituel-là, il permet d'offrir à ce corps, à cette momie, toutes les fonctions nécessaires à activer ce corps-là pour permettre aux défunts de vivre éternellement.
Anubis et Horus organisent parfaitement ton embaumement. Thoth guérit tes membres par la magie des formules. Ô Osiris, tu es justifié devant le grand tribunal de Haute-Égypte dans la ville de Heb, devant les grands dieux du temple de Ré et devant le grand tribunal de Haute-Égypte qui est dans le temple de Ptah. Ta tête vient à toi et ne s'éloigne pas de toi. Elle entre avec toi et ne se sépare pas de toi à jamais.
Grâce à d'autres rituels, on va pouvoir activer le défunt. Quand je dis de défunt, je fais exprès de ne pas dire la momie, parce qu'en fait, ce sont des choses différentes. Quand on parle du défunt, on va parler de la momie, mais d'autres éléments de... Alors, c'est difficile de les décrire précisément, mais c'est ce que nous, on peut... Dans notre conception judéo-chrétienne, c'est par exemple notre âme. Au moment de la mort, elle se sépare du corps. Donc on a le corps dans la tombe et l'âme qui va au ciel. En Égypte ancienne, c'est un peu pareil. Il y a aussi cette notion de corps qui reste sous la terre et d'âme, parce que là, par contre, il y en a plusieurs qui vont se détacher du corps grâce au rituel et qui vont aller dans différents endroits de l'au-delà. pour permettre aux défunts, dans sa globalité, de vivre éternellement. Donc, ces âmes, enfin, ces éléments de la personnalité du défunt, donc, par exemple, l'un d'entre eux, sa fonction, c'est d'intégrer la communauté divine et d'intégrer le cycle solaire pour faire le parcours du soleil tous les jours et ensuite revenir auprès du corps, auprès de la momie. Son enjeu étant de ne pas se perdre. Par exemple, on a des textes qui nous disent « Tu vas aller et venir dans la douate et faire en sorte de ne pas t'éloigner du chemin d'hier, du chemin que tu as emprunté la veille. » C'est extrêmement important parce que ne pas s'éloigner de ce chemin-là, ça permet de retrouver le corps, la momie qui, elle, reste dans la douate et statique et immobile dans la douate. Quand elle retrouve le corps, cette âme, elle va profiter et se recharger de toutes ces substances qui ont été placées dans le corps au moment de la momification, qui vont lui permettre de repartir dans un nouveau cycle. Donc ça se fait d'une manière éternelle. Donc on a à la fois une conception de l'éternité qui est assez statique, où le corps, la momie, reste en sous-sol, et une conception beaucoup plus dynamique, qui correspond au cycle solaire, qui permet en fait donc de vivre éternellement. Et donc ces deux sont absolument complémentaires. Les mouvements, enfin ce qui permet à l'âme de faire ses cycles de manière éternelle, c'est de repasser par le corps de la momie, qui est chargé de ces substances minérales qui lui permettent de repartir. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre.
C'est pas une âme qui s'envole pour le ciel et qui devient éthérée. Elle revit chaque jour le passage par le terrestre, la matière.
Elle en a besoin pour se relancer dans le cycle suivant. Le passage par le corps momifié est fondamental. Et justement, alors ces offrandes, elles sont souvent odorantes. On fait souvent des offrandes odorantes, sans doute parce que cette odeur, elle permet également à ce défunt qui se déplace de retrouver sa tombe. En sentant, il peut retrouver plus facilement son corps.
On a retrouvé du pain, des végétaux, du droguier et des aromates que l'on mettait dans les plats égyptiens. On avait de la viande séchée ou momifiée, puisque les momies mangent des mets momifiés, du canard, du bœuf. On a des graines et on a les indications sur les boîtes. Sommet de l'os, milieu de l'os, bas de l'os ou de la pâte. C'est écrit en hiératique, c'est-à-dire en écriture hiéroglyphique simplifiée, sur la boîte elle-même.
Un lot de 48 boîtes contenant des viandes préparées, inventaire Carter numéro 62, réduites pour la plupart à l'état d'os. Liste de Carter et indications portées en écriture hiératique sur la boîte. 4 omoplates de bœuf, 4 humérus de bœuf, 2 radius de bœuf, 2 vertèbres lombaires de bœuf, 4 fémurs de bœuf, 4 tibias de bœuf, 4 plats de côte de bœuf, 2 sternums de bœuf, 2 langues de bœuf, une oie.
On sait ce qu'ils mangeaient, on a retrouvé de l'oignon, de l'ail, on sait qu'ils mangeaient des concombres, on avait des oies, des canards.
Une dizaine de petits pots pour assaisonner les plats contenant pécaire, un genre de cerfeuil, noix de palmier d'oum, jujubier.
On a un certain nombre de graines de dattes, on a des figues qui ont été retrouvées dans la tombe. L'idée, bien entendu, c'est de favoriser l'alimentation du défunt dans l'au-delà.
Graines d'arbres à ounettes, fenugrec, plants de sou ou lentilles, cumin noir, raisins secs, jarres de miel, pains et gâteaux, dattes, figues de sycomore, raisins, melons, fruits du persea, une jarre de vin, datée de l'an 31 d'Amenhotep III, et une autre, datée de l'an 10 d'Akhenaton.
Les Égyptiens ne sont pas idiots, ils savent très bien que la momie ne va pas se lever et aller manger les pains d'offrande qu'il y a dans la tombe. Ils savent que même après 1000 ans, une momie n'a pas bougé pour aller se servir d'eau. Donc cet aliment est le signe de l'aliment que le roi va pouvoir manger dans l'au-delà. Dans le système d'offrande, on fait une offrande dans l'ici-bas, en espérant qu'elle aura un effet dans le monde imaginaire, qui lui-même aura un effet qui redescendra dans l'ici-bas. Mais c'est un pari pascalien. Voilà, c'est cette boucle qui est présente dans la religion égyptienne, où ils sont à la fois tout aussi pragmatiques que nous, pas plus crédules, mais ils croient quand même à l'importance des rites et à leur efficacité.
Salut à toi, grand Dieu. maître de Doumaït, je suis venu vers toi, ô mon maître. Je te connais et je connais le nom de 42 dieux qui sont avec toi dans cette salle de Doumaït.
Au moment de tous ces rituels d'embaumement, d'ouverture de la bouche, etc., ces différents éléments, on parle d'éléments de la personnalité du défunt, en fait, sont activés et vont pouvoir sortir du corps. Il y en a plusieurs. Par exemple, on a ce qu'on appelle l'âme ba, le ba, B-A, qui, sous la forme d'un oiseau à tête humaine, c'est un oiseau qui va se déplacer dans l'au-delà. Alors lui, en général, l'amba, une de ses fonctions, c'est justement d'intégrer la barque de Ré pour pouvoir suivre le cycle du soleil et retourner ensuite auprès du corps du défunt. Après, il y a l'âme Ar aussi, qui, elle, a aussi une fonction assez céleste pour rejoindre les étoiles, s'intégrer aux étoiles et suivre leur cycle aussi. Et toujours retrouver le corps. Et cette composante-là, ce art, il est activé à l'aide de formules spécifiques qui s'appellent des formules de glorification, qui sont prononcées toujours au moment de la mise au tombeau, au moment de la momification, et qui permettent d'activer cette composante-là de la personnalité du mort. Et on a le cas qui est souvent assez connu, mais alors dont lui, on a quand même assez de mal à comprendre précisément sa fonction. Il a l'air d'être lié aux offrandes, en lien avec l'alimentation justement du mort, mais pour la connaissance de ses croyances funéraires, on a encore tout un tas d'inconnus, parce qu'on n'a pas évidemment retrouvé tout, mais aussi parce que les textes se contredisent souvent.
Je n'ai pas commis l'iniquité entre les hommes. Je n'ai pas maltraité les gens. Je n'ai pas cherché à connaître ce qui n'est pas à connaître. Je n'ai pas fait le mal.
C'est le rituel de l'ouverture de la bouche, en fait, qui permet de redonner les fonctions vitales au corps momifié. Donc le corps momifié, il a été, on lui a enlevé les organes vitaux, il est vraiment serré et bloqué dans les bandelettes, et la bouche, les yeux, le nez sont bouchés. Et effectivement, en redonnant ces fonctions vitales, on permet à ce corps momifié de pouvoir bénéficier des offrandes, de la nourriture, de l'eau, des fumigations, des encens qui permettent justement à toutes ces âmes de se déplacer, de revenir au corps, de le retrouver. Si on ne le fait pas, le corps momifié est perdu dans la douate, dans le monde souterrain, et ne sert plus à rien, en fait. Donc, dans le cas de Toutankhamon, c'est le successeur de Toutankhamon qui va procéder à l'ouverture de la bouche de Toutankhamon. Donc là, en l'occurrence, c'est Aï, le pharaon Aï. Le corps du roi a été momifié, donc il est privé de sa liberté de mouvement, sa bouche, enfin tout est fermé, clos. Et donc ce rituel, ça va permettre de réouvrir la bouche, donc de permettre aux morts de respirer de nouveau, de pouvoir se nourrir. Donc c'est un rituel qui est fondamental et qui se faisait théoriquement à l'entrée de la tombe, avant de placer le corps dans le tombeau pour l'éternité.
Je n'ai pas blasphémer Dieu. Je n'ai pas appauvri un pauvre dans ses biens. Je n'ai pas fait ce qui est abominable au Dieu. Je n'ai pas desservi un esclave auprès de son maître. Je n'ai pas affligé. Je n'ai pas affamé, je n'ai pas fait pleurer.
Le corps était placé debout à l'entrée de la tombe et avec un petit outil qui s'appelle une herminette, on va poser cet outil sur la bouche pour, en prononçant des paroles spécifiques, pour redonner les fonctions vitales au roi avant de le mettre dans sa tombe pour toujours. Lui redonner la possibilité de se nourrir, de respirer, de boire. C'est vraiment ça.
Je n'ai pas tué. Je n'ai pas ordonné de tuer. Je n'ai fait de peine à personne. Je n'ai pas triché. Je ne me suis pas opposé à un dieu dans ses sorties en procession. Je suis pur, je suis pur, je suis pur, je suis pur.
C'est avec cette protestation d'innocence, aussi appelée confession négative, que le défunt se présentait devant la déesse Maat de la justice et de la vérité pour l'examen de la justesse de sa vie.
En Égypte ancienne, il y a des textes qu'on appelle les appels aux vivants, qui sont des textes qui sont utilisés dès l'Ancien Empire, tout au long de la civilisation égyptienne, qui sont placés à l'entrée des tombes et qui invitent les passants, les vivants, à s'occuper, à entretenir la tombe. On leur dit que s'ils entretiennent la tombe, s'ils renouvellent les offrandes pour le mort, etc., donc s'ils l'aident en fait à durer pour l'éternité, donc à maintenir sa tombe, à le pourvoir en offrande, ce qui lui permet de vivre dans l'au-delà. Il y avait une partie des tombes qui était ouverte, alors pas du tout la partie où le corps est conservé, mais c'était des sortes de temples, enfin de zones ouvertes où les visiteurs, les vivants, au moment de fêtes spécifiques, passaient dans les cimetières et allaient déposer des offrandes pour les membres de leur famille. Donc en fait, ces nécropoles, c'était un lieu de passage aussi, un lieu où il y a une activité, vraiment.
Moi, le seul roi qui soit encore dans sa tombe. Donc voilà la momie, il y a un linceul qui recouvre la partie médiane, mais on voit la tête et les pieds de Toutankhamon. Et la momie est extrêmement noircie et extrêmement, on voit, cassante, fragile, tout simplement parce qu'on a utilisé énormément d'onguents et de produits de momification, trop en fait, ce qui a en partie carbonisé presque les chairs. On a des momies de l'époque qui ont eu un traitement, je dirais, normal, pas excessif, et qui sont très bien préservés. Là, je dirais qu'on a du mal à reconnaître les traits de Toutankhamon. On voit qu'il a le menton légèrement en retrait, il a les dents supérieures qui sont légèrement en avant par rapport à la mâchoire inférieure. Voilà, c'est difficile de dire à quoi ressemblait vraiment Toutankhamon. Mais enfin, c'est bien lui.
Marc Gabold, vous qui êtes un éminent spécialiste du pharaon Toutankhamon, qu'est-ce que vous ressentez ici d'être face à sa momie, à lui qui repose sur son lit ?
Je préférerais qu'on ne le voit pas trop. C'est une dépouille. Hein. Bon, ça se fait de montrer des dépouilles, ça c'est même institutionnalisé dans l'Occident chrétien comme dans l'Orient. Mais voilà, moi je crois que les dépouilles humaines ont droit à la fois un respect et une certaine discrétion. Mais bon... On les présente de nos jours. Je ne sais pas si ça se fera encore à l'avenir. Hein. Peut-être qu'un jour, on décidera que ce n'est pas la meilleure chose ni pour les momies, ni pour les spectateurs.
Facile Dobref, selon vous, qu'est-ce que la découverte du trésor de Toutankhamon, qu'est-ce que ça a changé complètement dans l'égyptologie ?
Vous savez, c'est pas le trésor de Toutankhamon, c'est la tombe de Toutankhamon. Tout le reste, ce n'est pas un trésor. ce sont les objets, tout ce qui est indispensable, nécessaire pour la vie après la mort. Pour nous, c'est un trésor parce qu'il y a de l'or. Est-ce que c'était le plus important? Peut-être pas. L'important, c'était que le roi existe et monte dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Un roi complètement méconnu, censuré des grandes listes, oublié volontairement, probablement, effacé de l'histoire. Donc, pour les anciens égyptiens, pour les rois après, pour l'histoire égyptienne officielle, il était un non-existant, comme disaient les égyptiens. Et tout d'un coup, Carter, en le trouvant, il ressort dans l'histoire. C'est que 3500 ans plus tard, ce roi oublié volontairement et damné, quelque part, surgit dans l'histoire. Voilà la vie après la mort. Alors que plein d'autres pharaons, on ne se rappelle plus d'eux. C'est ça, la vie après la mort, tout en Toutankhamon. Il est devenu le roi le plus important de toute l'Égypte ancienne. Alors que sur le classement, il va aller, sur les 30 dynasties qu'on connaisse, il va être au dernier rang de la 18e dynastie peut-être. Il a resté très peu de traces dans son histoire. Il y a à côté, vous avez des Ramsès, des Khéops, des Djoser, le saint, le sacré. Bien sûr, on le connaît, mais pas autant que Toutankhamon. Quelque part, la découverte de Toutankhamon, la tombe, de tous les objets autour, qui a fasciné le monde. C'est la plus grosse découverte dans le monde. Ça serait toujours la plus grosse. Je crois qu'on n'égalera jamais. Vous imaginez ce que c'est dans notre civilisation? Quelque chose qu'on trouve et qu'on sait qu'on n'égalera jamais. Pratiquement. Alors, j'imagine pas. Donc, c'est ça qui a permis d'ouvrir le monde sur l'Égypte. C'est là qu'a commencé à comprendre mieux, quelque part, ça fait la revanche de Djoser, la revanche de Khéops, la revanche de Ramsès. Tous ces rois qui l'ont banni, c'est grâce à Toutankhamon qu'on a commencé à les revoir. On a commencé à avoir des expéditions, des fouilles plus importantes, tout ça. Et c'est quand même Toutankhamon qui a permis aussi d'ouvrir l'histoire égyptienne, d'avoir des gens qui financent des fouilles, des plus en plus de fouilles jusqu'à aujourd'hui, peut-être des mécènes.
C'est la résurrection ultime du pharaon.
C'est la mémoire. Parce que très souvent, quand on trouve, moi je trouve un prêtre qui est oublié depuis 4500 ans, et souvent vous avez toujours quelqu'un dans une conférence qui vous dit « mais vous êtes des pilleurs de tombes ». Les Tomb Raiders, n'est-ce pas? On pille des tombes. Et je dis, monsieur ou madame, ce personnage, un tout petit prêtre, un sous-secrétaire d'État, etc., qui écrivait des discours, était complètement oublié depuis 4500 ans. Tout d'un coup, on trouve sa tombe. On la restaure. On la remet en place. Si on veut, on peut remettre des offrandes, finalement. Et tout d'un coup, il surgit de l'histoire. Après 4500 ans. Eh bien, en 6000, après notre ère, quel personnage va sortir de l'histoire? Le pape, Jean-Paul II, ceci. Est-ce que nos présidents de la République vont être connus en 6000 après Jésus-Christ? Et moi, on réussit par la fouille à faire surgir un prêtre complètement disparu de l'histoire en prononce son nom. Et bien, donc il existe de nouveau. Voilà la résurrection. La vie après la mort, c'est ça qu'on se rappelle de vous. 3500 ans, 4000 ans après, on parle de ce personnage, donc il existe.
Là à l'ouest du soleil, il y a un nuage là parce que là on est assez tard, donc il commence à se coucher le soleil, du coup la lumière va être un peu moins forte et il va être caché par ce nuage là. On commence à l'avoir là maintenant, vous voyez. Regardez les rayons qui descendent, c'est ça la pyramide solaire.
Merci à Vassil Dobrev, Frédéric Mougenot, Florence Albert et Marc Gabold. Merci aussi à Hent Mohamed d'avoir lu en français La protestation d'innocence ou confession négative du livre des morts. Hélène Losseur a lu la description du Nil par Otto Neubert dans son livre La vallée des rois, puis des extraits du livre des morts et du livre de l'âme d'Ouap, et enfin des passages des inventaires Carter de la tombe de Toutankhamon. Prise de son, Patrick Muller, Laurent César, Jean-Louis Deloncle, Thibaut Nassimben et Nadège Antonini. Mixage, Éric Villenfant. Documentation, Annelise Signoret et Véronique Le Faller. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvran. C'était Toutankhamon, le retour du pharaon. Troisième épisode, À la vie à la mort, un culte de l'au-delà. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Diffy Mariani.
Mais là, aujourd'hui, on a de la chance. Regardez tous ces nuages qui permettent vraiment de... d'imaginer ces rayons solaires qui descendent, d'imaginer ce roi, ce dieu qui descendent. Voir des images comme ça, c'est assez exceptionnel. Hein. On voit pas ça tous les jours en Égypte. C'est magique, là. We'll be right back.